RFI 23h30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et toute l'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berouet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le Qatar, atout majeur sur la scène diplomatique dans le conflit de l'Est de la RDC. Il reçoit le M23 ainsi que délégation congolaise à Doha, après avoir réuni il y a 10 jours les présidents congolais et rwandais. La crise au Soudan du Sud et les menaces sur l'accord de paix depuis l'arrestation de Riek Machar. Le secrétaire général de l'ONU appelle les dirigeants sud-soudanais à déposer les armes. Le Gabon, l'avocat de Sylvia Bongo, l'épouse du président déchu, Ali Bongo, et de son fils Nourdine, dément les propos du président de transition, Brice Olingi Nguema. Il affirme que ses clients, incarcérés depuis le putsch du mois d'août 2023, ont subi des actes de torture. Nous ferons le bilan du sommet de Paris contre la malnutrition. Plus de 27 milliards de dollars promis. C'est un record et un défi alors que l'aide américaine a été supprimée par Donald Trump. Dans l'actualité également, une éclipse partielle de soleil demain visible aussi en Afrique de l'Ouest. La lune masquera le soleil pendant plusieurs minutes, mais attention aux yeux, il faut des lunettes spéciales pour profiter du spectacle. Enfin musique, on écoutera la jeune rappeuse centrafricaine Katy Pop qui fait fureur à Bangui. Voilà pour le sommaire. Le Qatar en pointe est sur le devant de la scène diplomatique dans le conflit dans l'est de la RDC après avoir accueilli à la surprise générale le 18 mars une rencontre entre les présidents congolais et rwandais. Doha reçoit des délégations de la RDC et du groupe armé M23. Doit-on y voir le début d'un dialogue direct entre les deux parties? En tout cas, le Qatar joue la discrétion sur ce dossier à Kinshasa, Pauline Azidi.
À Kinshasa, pour plusieurs diplomates en poste, c'est cette discrétion qui a conduit au succès de la rencontre du 18 mars dernier. Pas d'annonce avant le rendez-vous, seuls quelques proches des deux chefs d'État étaient dans la confidence. Résultat, il a fallu attendre le communiqué du Qatar pour confirmer l'entrevue. Quand une information fuite, le rendez-vous tombe déjà un peu à l'eau, estime en effet un spécialiste du dossier. Une méthode qui tranche avec celle des autorités angolaises qui jusqu'ici étaient en charge de la médiation. Les deux rendez-vous ratés de Luanda en décembre et en mars avaient eux été officiellement annoncés à l'avance sur les réseaux sociaux et les parties avaient confirmé ou infirmé publiquement leur participation. Cette fois-ci, des sources confirment que les deux délégations sont bien à Doha, que des échanges avec la médiation qatarienne sont en cours. Enfin, selon nos informations, il y aurait encore des préalables à régler avant de pouvoir réunir autour d'une même table les différents acteurs. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et puis un accord a été conclu entre le M23 et la SADC pour l'évacuation de la force militaire déployée à Goma par le bloc des pays d'Afrique australe. Mi-mars, la SADC a mis fin au mandat de la force régionale SAMI-RDC qui était déployée depuis 2023 dans l'est du pays sans pouvoir stopper la dernière offensive du groupe armé. Les modalités du retrait des militaires de la SAMI-RDC ont été précisées ce vendredi. Lisa Fabian.
Les chefs d'état-major des armées d'Afrique du Sud, de Zambie, du Malawi et de Tanzanie étaient tous présents ce vendredi à Goma face à Sultani Makenga, le chef militaire du M23. À l'issue de leur réunion, les deux parties ont convenu que le M23 facilitera le retrait immédiat des troupes de la SAMI-RDC avec leurs armes et équipements. Leur départ se fera via l'aéroport international de Goma, qui doit donc être réparé puisqu'il a été endommagé dans les combats et qu'il est pour l'heure inutilisable. Dans cette perspective, la SADC et le M23 ont décidé de mettre sur pied un comité conjoint chargé d'évaluer l'état de l'aéroport. La communauté de développement d'Afrique australe s'est aussi engagée à participer à sa réparation. Depuis la prise de la ville de Goma, plusieurs organisations de l'ONU et de la région demandent la réouverture de l'aéroport en vue d'y créer un couloir humanitaire. Cet accord est donc un premier pas d'envergure dans cette direction. Fin février, le M23 avait déjà permis l'évacuation des soldats de la SADC grièvement blessés lors de l'offensive sur Goma, dans laquelle 14 soldats sud-africains ont perdu la vie.
Lisa Fabian, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 22h35 en temps universel. Le Gabon, les avocats de la famille Bongo réagissent aux propos du général Oligui Nguema. Tenu sur RFI et France 24 mardi, le président de la transition gabonaise avait assuré que Sylvia et Nourdine Bongo, détenus depuis le coup d'État du mois d'août 2020, 23 n'avait pas été victime de torture. Mais selon Maître François Zimret, non seulement ses clients sont détenus hors de tout cadre légal depuis le putsch, mais ils ont été victimes d'actes de torture dont il a vu, dit-il lui-même, les marques physiques et mentales. On l'écoute.
J'ai souvent rencontré des victimes, j'ai vu les choses difficiles. Mais je dois dire que j'ai rarement été bouleversé comme je l'ai été lorsque j'ai vu Sylvia Noureddine Bongo. Et j'affirme, ils ont été torturés. Peut-être que le général ne le sait pas. Et ces tortures avaient pour objectif d'obtenir d'eux le transfert de la totalité de leurs biens auprès de proches du régime. Leurs comptes ont été vidés, les villas qu'ils possédaient, les biens immobiliers qui appartenaient à Sylvia Bongo avant son mariage ont été réattribués au président Oligui ou à des proches. Voilà ce qui s'est passé. Vous savez, ce sont des gens qui sont dans un deuxième sous-sol, sans voir le jour, depuis 18 mois. Dans des conditions épouvantables, ils ont été torturés dans des conditions que je ne vais pas détailler pour ne pas porter atteinte à leur intimité, à leur dignité. Je l'ai vu de mes propres yeux, je sais reconnaître quelqu'un qui est traumatisé, les récits sont concordants, il se trouve qu'il y a eu aussi des témoignages, donc nous avons un dossier qui est extrêmement solide.
Des propos recueillis par François Mazé. Le Burkina Faso et Human Rights Watch qui s'alarment de la série d'arrestations dans ce pays en une semaine. Le journaliste Idrissa Barry et 4 autres militants du mouvement politique Sens ont été emmenés sans mandat ni motif officiel, tout comme le président et le vice-président de l'Association des journalistes du Burkina, ainsi qu'un reporter de la chaîne privée BF1. Tous sont détenus dans un lieu toujours inconnu. Ilaria Allegrosi est chercheur sur le Sahel pour Human Rights Watch. Pour elle, c'est le musellement de toute voix dissidente qui est devenu la règle.
C'est une répression qui s'intensifie alors que le pays plonge progressivement dans une situation de violence à grande échelle. Et les mépris du gouvernement pour les libertés fondamentales, les libertés civiques, risquent vraiment d'amener à la disparition totale des organisations indépendantes, des médias indépendants qui continuent et essaient de publier des opinions critiques contre la junte au Burkina. On peut dire que la répression a atteint des nouveaux sommets et que le gouvernement recourt de plus en plus à la répression contre ceux qui demandent des comptes à la junte ou les personnes qui osent dénoncer les dérives de la junte, par exemple les atteintes aux droits et libertés fondamentales, les exactions commises par les militaires dans le cadre de la lutte contre les groupes armés islamistes. Il y a carrément des efforts concertés du gouvernement pour décimer les médias indépendants, les voix discordantes et la société civile.
Propos recueillis par Sidi Yansané. 2 jours après le placement en résidence surveillée de Riek Machar, le vice-président du Soudan du Sud, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'exprime face au regain de tension de ces dernières semaines et face au risque de voir le Soudan du Sud retomber dans la guerre civile. Antonio Guterres demande aux dirigeants de déposer les armes.
For the sake of the long-suffering people of South Sudan, it's time for dialogue and de-escalation.
Pour les longues souffrances endurées par le peuple du Soudan du Sud, c'est le temps du dialogue et de la désescalade. La Corne de l'Afrique connaît déjà des troubles et ne peut pas se permettre un autre conflit, et le Soudan du Sud non plus. Alors aux dirigeants de ce pays, je dis arrêtez la confrontation, relâchez les officiels militaires et politiques immédiatement. Restaurez le gouvernement d'unité nationale et mettez en œuvre vigoureusement vos promesses en vous engageant dans l'accord de paix, qui est le seul cadre légal pour l'organisation d'élections pacifiques en décembre 2026. Le Soudan du Sud est oublié de tous, mais nous ne pouvons pas laisser le pays sombrer dans l'abîme. Maintenant, plus que jamais, les dirigeants du Soudan du Sud doivent porter un même message avec clarté, déposer les armes et mettez le peuple sud-soudanais au premier plan.
Et le médiateur kényan, l'ex-premier ministre Raila Odinga, est arrivé à Juba. Contre la malnutrition, l'action collective peut faire la différence. C'est ainsi que la secrétaire générale adjointe des Nations Unies a refermé à la mi-journée le sommet de Paris contre la malnutrition. Malgré le désengagement américain, la mobilisation a été au rendez-vous. État, société civile et donateurs privés ont tous promis plus de 27 milliards de dollars d'investissement, un record salué par la France. Christina Okello.
Nous avons dépassé la somme de Tokyo sans les États-Unis, déclare soulagé Thani Mohamed Solehi, le ministre délégué à la francophonie. La France salue une prise de conscience mondiale contre la malnutrition après 2 jours de sommet à Paris. Plus de 27 milliards de dollars ont été promis, 5 milliards pour la Banque mondiale, 9 pour la Banque africaine de développement et plusieurs milliards de la part du secteur privé. Un record alors que l'aide américaine s'effondre depuis le démantèlement de l'USAID par Donald Trump. L'édition 2025 s'est donc tenu sans le premier baromètre mondial, mais avec l'ambition d'ancrer la nutrition dans 80% des budgets nationaux sur 5 ans. Objectif, améliorer les repas scolaires, mais aussi lutter contre la faim, le surpoids et la précarité alimentaire. Mais certains restent prudents. On se vante d'avoir dépassé Tokyo, mais on n'a jamais vu la couleur de ces fonds, rappelle une activiste ougandaise. Le défi reste donc la mise en œuvre et la continuité du processus. Les États-Unis n'ont toujours pas confirmé l'accueil de la prochaine édition censée tenir à Los Angeles.
Alors, comment mobiliser le secteur privé? Comment compenser la perte de l'aide au développement américaine? Axel Van Trotsenburg, directeur général senior de la Banque mondiale, explique les stratégies de l'institution. Il répond à Alexis Bédu.
C'est une combinaison. Il y a ce que les donateurs vont fournir, mais il est absolument essentiel que les pays eux-mêmes continuent d'investir. Cela nécessitera des milliards de dollars, non pas en une seule fois, mais de manière continue. C'est le message que nous transmettons. La communauté internationale peut accompagner les pays, mais au final, ils devront aussi consentir d'importants investissements.
Alors, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest font partie des régions où la situation s'est le plus détériorée ces dernières années, d'autant plus que plusieurs pays occidentaux réduisent leur aide au développement. Ce fut le cas de la France, c'est particulièrement le cas des États-Unis qui se sont désengagés au début de l'année, qui n'étaient pas présents à ce sommet. Comment faire face à cet arrêt de l'aide américaine si elle se confirme ?
Nous avons constaté une diminution de l'aide au développement et ça nous inquiète. Nous sommes très actifs auprès des donateurs, mais aussi du secteur privé pour qu'ils restent engagés auprès des pays en développement. Nous disposons d'un fonds destiné aux pays les plus pauvres, appelé l'Association internationale de développement. Nous venons de finaliser un cycle de financement de 3 ans avec une enveloppe allant jusqu'à 100 milliards de dollars, dont environ 70 milliards seront destinés à l'Afrique. Nous souhaitons que les donateurs bilatéraux poursuivent leurs efforts et restent généreux. Mais en tant qu'organisation, nous ne voulons pas nous inscrire dans une logique de réduction des financements. Au contraire, nous voulons renforcer notre engagement.
Et donc le secteur privé, les banques multilatérales peuvent compenser cette
Je ne pense pas. Les montants peuvent être extrêmement élevés, donc il faudra combiner plusieurs sources de financement. De nouveaux acteurs émergent, que ce soit des marchés émergents ou des pays comme la Corée du Sud qui a intensifié ses programmes de développement. Ce qui est clair, c'est que nous ne disposerons pas de toutes les ressources nécessaires, mais nous aurons les moyens financiers suffisants pour agir efficacement.
Axel Van Trotsenburg, directeur général senior de la Banque mondiale avec Alexis Bedu et une traduction d'Éric Chorin.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et c'est une bonne nouvelle. Au Sénégal, frappé par l'inflation, les autorités annoncent une nouvelle baisse prochaine du prix du riz. C'est l'aliment le plus consommé dans le pays. Il va passer de 410 francs CFA le kilo à 350 francs le CFA dès le 3 avril. Une mesure rendue possible après des négociations avec les pays producteurs, mais aussi grâce à la baisse des cours mondiaux. Juliette Dubois.
Tchéboudienne, Niassa, le riz brisé importé d'Asie est le produit alimentaire le plus consommé au Sénégal, avec une demande annuelle d'1 300 000 tonnes. Les discussions au sein du Conseil national de la consommation ont abouti à une réduction de 60 francs CFA du kilogramme, fixant désormais son prix de détail à 350 francs CFA contre 410 francs CFA auparavant. Le contexte mondial a facilité cette mesure puisque le prix du riz est à la baisse depuis le début de l'année. Les pluies abondantes en Asie ont stimulé la production. L'Inde a repris les exportations de riz brisé début mars, mars et ses concurrents asiatiques comme la Thaïlande ont baissé leurs prix pour rester compétitifs. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serine Gay Diop, s'était également rendu en Inde, d'où provient l'essentiel du riz consommé dans le pays, pour obtenir des conditions d'importation plus avantageuses en supprimant notamment des intermédiaires. La mesure qui s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à réduire le coût de la vie des Sénégalais sera officiellement entérinée par le président Bassirou Diomaye Faye le 3 avril. Un dispositif renforcé de surveillance et de contrôle sera mis en place. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Levez les yeux demain si vous êtes dans l'hémisphère nord, car c'est toujours un joli spectacle, même si cette fois il n'est que partiel, une éclipse solaire, la lune qui passe devant le soleil. Éclipse partielle donc ce samedi matin, elle sera visible en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Europe de l'Ouest, à l'Est du Canada, Simon Rosé.
C'est une coïncidence qui procure à chaque fois un joli spectacle. La lune est 400 fois plus petite que le soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de nous. Résultat, dans le ciel, les deux nous apparaissent à la même taille. Ce samedi matin, notre satellite va donc passer devant notre étoile. Les deux ne seront pas parfaitement alignés. L'éclipse ne sera donc que partielle. Mais cela vaudra tout de même le coup de lever les yeux au ciel. Attention cependant, même partiellement occulté, le soleil brille fort. Il est donc obligatoire de porter des lunettes dédiées sous peine de s'abîmer gravement les yeux. Sénégal, Mauritanie, Maroc, Algérie seront au cours de la matinée progressivement survolés par l'ombre de la lune avant que l'Europe de l'Ouest ne profite du spectacle. Mais aussi bien en Afrique qu'en Europe, le soleil sera cependant bien moins occulté qu'au Canada. De l'autre côté de l'Atlantique, 85% de notre étoile sera masquée. Les Québécois auront donc presque une éclipse totale.
Voilà, et si vous êtes à Paris et si les nuages ne jouent pas les troubles, faites le spectacle, sera visible dès 11h08 et il s'achèvera à 12h56. Encore une fois, protégez-vous les yeux.
RFI.
Il était l'un des disparus des Jeux Olympiques de Paris de 2024. Comme plusieurs autres athlètes, le nageur Freddy Mayala, éliminé en série du 50 mètres, avait décidé de ne pas rentrer dans son pays après les JO pour demander l'asile en France. Âgé de 24 ans, l'athlète du Congo-Brazzaville s'est installé dans l'ouest de la France, en Bretagne. C'est là qu'il a été accueilli par le club de natation de Vitré, où il s'entraîne 5 fois par semaine, où il dit avoir bénéficié d'une grande solidarité. Et jeudi, hier, la Cour nationale du droit d'asile a accepté sa demande, celle de Freddy Mayala, et Victor Missistrano a recueilli sa réaction.
J'étais rempli de joie parce que avant ça, j'étais dans les craintes, quoi. Donc du coup, j'étais rempli de joie quand j'ai reçu la réponse qui était positive. Ça va me permettre, quoi, de bien poursuivre ma carrière, de bien exercer la natation sans avoir un problème avec qui que ce soit, quoi. J'ai l'accès à la piscine librement. Je ne pouvais plus vivre ce que je vécis avant quand j'étais dans mon pays, quoi. Donc du coup, j'étais très rempli de joie. Je me sens très soulagé, je peux le dire. En fait, je pourrais bien mieux faire par rapport à ce que je faisais avant. Le but serait peut-être que je puisse chercher à rejoindre l'équipe olympique des réfugiés, si possible, essayer de voir si on pourra atteindre les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Au niveau du Congo, le problème de la natation, c'est juste la piscine. C'est pas qu'il n'y a pas de piscine, il y a la piscine, mais ils ne veulent pas donner l'autorisation aux athlètes de s'entraîner. Et il y a aussi le fait qu'on n'a pas la liberté d'expression, quoi. On ne peut pas tout le temps dire ce qui ne va pas dans le truc pour éviter d'être dans des ennuis, quoi.
Le nageur Freddy Mayala au micro de Victor Missistrano. Le Gabon et la campagne officielle en vue de la présidentielle du 12 avril débutent ce samedi. 8 candidats en lice, dont le chef de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a lancé pour la campagne le rassemblement des bâtisseurs. Pourtant, il n'hésite pas à revendiquer l'héritage d'Omar Bongo, dont il fut l'aide de camp pendant 8 ans. Et comme l'ex-président à qui il est apparenté, il vient de la province du Haut-Ogoué. Mais à Franceville, chef-lieu de la province, comme ailleurs au Gabon, les avis sont partagés. Sur cette succession entre rupture et continuité, c'est un reportage de notre envoyé spécial François Mazé.
À notre passage à Franceville, nous sommes à plus d'un mois de la campagne officielle. Pourtant, impossible d'ignorer que le chef de la transition sera bientôt candidat. Le général Oligui Nguema s'affiche sur tous les boulevards et les rassemblements d'associations de soutien créés pour l'occasion se multiplient. Ce samedi, plusieurs centaines de femmes en t-shirt blanc, comme Imelda, une infirmière en formation, ont été convoyées des localités du Haut-Ogoué.
On veut qu'il pose la candidature pour lui voter parce qu'on voit déjà ce qu'il fait. Ça lui prouve déjà qu'il a l'amour pour la population et il a pitié de la jeunesse.
Là, ici, vous l'avez vu en ville, des choses qui changent depuis un an et demi?
Oui, il change, il construit, on a vu. comment il construit déjà les maisons, les routes, surtout dans mon village à Onga. Les merveilles qu'il fait déjà là-bas, ça m'éprouve déjà qu'il adore sa population.
Ornières bouchées, façades en réfection, écoles réapprovisionnées, les marques du CTRI, le comité militaire qui a renversé Ali Bongo, sont partout à Franceville. Dans les collines environnantes, les nouvelles villas fleurissent et les projets laissés en suspens reprennent. Mais tout le monde n'est pas convaincu par la frénésie de béton qui a gagné la transition. Guy Roger Mangonda est professeur dans un lycée de la ville.
À chaque période électorale, on a souvent vu la même chose. Ce sont des opérations de charme. Ali Bongo, quand il est arrivé, il disait qu'il était un bâtisseur. Il a commencé à faire ce que M. Oligui est en train de faire. Et après, on a compris que ce n'était pas finalement un bâtisseur. Les gens qui ont accompagné Bongo père, ce sont les mêmes qui ont accompagné Bongo fils, ce sont les mêmes qui accompagnent Oligui. Et pourtant, M. Oligui avait dit que ce sont eux qui ont fait tomber le Gabon. Il n'y a rien qui est restauré.
Un constat partagé par Marcel Libama, leader syndical, adversaire de l'ancien régime, député de la transition. Il espérait lui aussi une rupture plus nette.
Mais à l'évidence, nous nous rendons compte qu'il y a une continuation, c'est les mêmes choses, les mêmes façons de faire, les mêmes réflexes. Donc il y a un paradoxe entre ce qui se passe sur le terrain et la gestion, les gestionnaires du pays. Ça nous laisse pantois, dubitatif, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut ?
Malgré ses réserves et comme la quasi-totalité des cadres de l'ancien pouvoir, des ex-opposants et des figures de la société civile, Marcel Libama a finalement intégré la campagne Oligui Nguema dans le Haut-Ogooué. François Mazet de retour de Franceville, RFI.
Et puis cette information de dernière minute. En Guinée, le général Mamadi Doumbouya accorde la grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara. C'est ce qu'annonce ce soir la télévision guinéenne. L'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara de 2008 à 2010 avait été condamné le 31 juillet dernier pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans les massacres du stade de Conakry le 28 septembre 2009. Nous partons en Centrafrique à la découverte de la révélation musicale de l'année. Il s'agit de Katy Pop, de son vrai nom Louisa Amanda Bakossa, étudiante en troisième année de diplomatie et de relations internationales à Bangui. Elle s'est engagée dans la musique, notamment dans le rap, il y a presque 3 ans. Katy Pop fait aujourd'hui partie des rares filles qui font le rap en Centrafrique et elle vient de sortir son nouveau titre baptisé Sugar Daddy qui cartonne actuellement dans le pays et Rolf Steph Domialeux l'a rencontré.
Monzoko chimbia dewa uwe mbipusu na dawa.
Katy Pop et la musique, c'est une histoire d'amour. À tout juste 22 ans, elle fait partie des rares femmes qui font le rap en Centrafrique. Dans les quartiers, sur la scène ou encore dans les bistrots, son charisme et sa voix mélodieuse ne passent pas inaperçus. Comme beaucoup d'autres musiciens, Katy Pop a commencé la musique dans une chorale.
Ça a toujours été une passion. Je fais du rap engagé, mais je chante également, donc moi je n'ai pas de style musical approprié. J'ai commencé à l'église et après je me suis dit pourquoi pas me lancer dans une carrière musicale.
De son vrai nom, Louisa Amanda Bakossa, Katy Pop trouve ses inspirations à travers les réalités sociales.
Comme je le dis toujours dans mes sons, j'ai l'habitude de juste observer. Ça fait que je suis beaucoup plus calme. Ça dépend également de mes humeurs de temps à autre.
En plus de la musique, Katy Pop est également étudiante en troisième année de diplomatie. Même si c'est difficile de concilier les deux, elle a le soutien de ses parents, Melissa et sa grande sœur.
Je trouve qu'elle est talentueuse et si elle est bien entourée, elle peut aller vraiment de l'avant. Elle se donne déjà à fond. Je vois que beaucoup de gens apprécient sa musique. Non seulement elle fait la musique, mais elle continue d'aller à l'école et elle est toujours parmi les premières. Donc on ne peut que l'encourager.
Louisa Amanda Bakossa chante pour dénoncer les maux qui minent la société. Son dernier titre, Sugar Daddy, vise à dénoncer le comportement de certains pères de famille qui harcèlent les jeunes filles pour avoir des relations sexuelles avec elles.
J'ai été confrontée à ce genre de situation. Après, je me suis dit pourquoi ne pas écrire quelque chose là-dessus. Et je raconte en fait le fait que Les petites filles qui sortent avec les hommes âgés qui ont plus ou moins le même âge que leur père pour des raisons financières, matérielles et autres. Mais je trouve que ce n'est pas du tout normal. Ces hommes-là, ils sont juste là pour un truc précis. Et après, rien du tout.
Avec le titre Sugar Daddy qui cartonne actuellement dans le pays, Katy Pop compte conquérir le public international. Rolf Esteve Doumerle. Yeah. Bongi, RFI.
Katy Pop qui nous vient de Centrafrique, Bangui, jeune rappeuse avec ce titre Sugar Daddy. Puis on va poursuivre en musique avec un extrait de la playlist d'RFI. Vous le savez, ces playlists, vous pouvez les retrouver sur nos plateformes. C'est les coups de cœur aussi de nos sélectionneurs et programmateurs musicaux. On va écouter Colico. Ce sont des frites d'igname, me dit-on. Et le groupe, c'est Voodoo Games. Avec ce titre Colico qui nous vient également du Togo, à retrouver dans notre playlist sur RFI. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe d'Afrique Soir. Raphaël Azizi à la réalisation. Toute l'équipe vous salue bien. Lexi Guilleux, Guillaume Bédran. On se dit à demain. Restez à l'écoute. L'info revient dans quelques instants avec le journal de Gali Bonin. Malibu.
Le goût du monde, Clémence Denavy.
Au Québec, la nouvelle cuisine ne vient pas de la cuisine seulement, mais aussi de la façon dont on accueille les gens à Montréal, nous dit le chef Marco Frappier. La façon dont on fait le service et la cuisine, c'est un tout, c'est beau, c'est unique. Ça donne envie, hein? On s'installe au marché Jean Talon à 11h30 en temps universel, ce dimanche, voyageurs gourmands, à vos radios.
Le goût du monde, avec Clémence Denavy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.